Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un matin du mois de janvier 2004, le photographe Helmut Newton est mort sur Sunset Boulevard en percutant un mur au volant de sa Cadillac. Il avait 83 ans. Quelques mois plus tard, sa veuve, June Newton, alias Alice Springs, comédienne et photographe elle-même, déposait les cendres d'Helmut Newton dans le petit cimetière de Friedenau à Berlin, dans cette terre allemande qu'il avait quittée en 1938, fuyant les nazis pour mieux les combattre ensuite sous l'uniforme australien. Avec un orchestre de jazz en tête de cortège, la cérémonie ne voulait pas être triste. Dans sa tombe, à quelques pas de celle de Marlene Dietrich, Alice Springs jeta le petit Olympus noir qui ne quittait jamais Newton. Puis, après lui avoir lancé un baiser, elle chanta « Mon cœur est tien » de Schubert. Alice Springs ainsi que le mannequin Violeta Sanchez, on les entendait dans le documentaire que consacrait en 1983 Gérard-Julien Salvi au célèbre photographe. Helmut Newton racontait la naissance de sa vocation de photographe, ses années d'apprentissage, disait les photographes qui avaient compté pour lui et parlait de son propre travail. Un photographe et son modèle, Helmut Newton, a un documentaire du vendredi diffusé la première fois le 9 décembre 1983 sur France Culture.
Un photographe et son modèle, Helmut Newton, par Gérard-Julien Salvi et André Mathieu. Avec le concours de Violeta Sanchez.
C'est quelqu'un de très bon enfant, de très drôle, qui a un énorme sens de l'humour.
Et la participation d'Alice Springs.
C'est un vrai chose. Il est tellement facile de vivre avec.
Helmut Newton, né à Berlin en 1920, de nationalité australienne. Il vit essentiellement à Monte-Carlo après avoir habité Paris pendant 20 ans. Il collabore à Elle, Marie-Claire, et aujourd'hui presque exclusivement aux éditions françaises et américaines de Vogue. Après une longue collaboration avec Yves Saint-Laurent, il collabore aujourd'hui avec Karl Lagerfeld pour Chanel. Il a publié notamment « Femmes secrètes » et « Nuit blanche », ainsi qu'un album aux éditions du Regard.
Qu'est-ce que le métier de photographe ?
À voir, à observer, pour certaines à témoigner, pas pour moi, être voyeur, aimer le métier, aimer la photographie, jusqu'à l'exclusion de tous. C'est pour moi le cas, en tout cas.
Qu'est-ce que c'est l'exclusion de tous ?
C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, j'ai fait des photos quand j'étais très jeune. C'était la seule préoccupation que j'ai eue dans ma vie. J'ai jamais fait autre chose, sauf pendant la guerre, j'étais dans l'armée. J'ai pas de talent pour autre chose, je peux pas dessiner, je peux pas écrire, j'aimerais bien écrire, mais j'ai pas de talent pour ça. J'ai un talent à faire des photos, dans une certaine manière, et j'adore faire ça, j'aime beaucoup faire ça.
Quand avez-vous décidé d'être photographe ?
J'ai décidé, je crois, quand j'ai eu 13 ou 14 ans. J'ai fait des photos à partir de 12 ans. Mais je crois que j'ai décidé à 13 ou 14 ans. J'ai eu un cousin qui était caméraman à la Tobis à Berlin, qui m'a très soutenu vis-à-vis de mon père, parce que mon père était très contre. Je voudrais faire le cinéma. Mais là, mon père a était très dur. Il n'a pas voulu entendre de ça. Il n'a pas voulu entendre que de ce désir de devenir photographe. C'était à cette époque-là, c'était hors de question pour un garçon de soi-disant bonne famille devenir photographe. C'était absolument pas possible. Mon père a dit que c'était un très bon hobby, mais une fois que tu as terminé tes études, tu vas entrer dans les affaires de la famille, et ça se fait comme ça. Alors mes études étaient très, très mauvaises toujours. Enfin, à 16 ans, j'étais foutu à la porte de l'école, parce que j'étais tellement mauvais étudiant, parce que j'ai passé toute ma vie à faire des photos, être autour des photographes. J'ai pris un travail comme ce qu'on appelle... c'est pas assistant, c'était quelqu'un qui a baladé le tapis, fait le café pour... Il y avait deux photographes reporters qui m'ont engagé pour rien, bien sûr. J'ai fait le café pour eux, j'ai fait des messages. J'ai eu 14 ans, 15 ans. J'ai pas fait mes études dans l'après-midi, mes devoirs de l'école. Et mon père, bien sûr, n'était pas au courant de ce travail que j'ai pris. Et après 6 mois, il y avait le professeur, le patron de l'école, le principal, a écrit une lettre à mon père en disant « Si votre fils ne fait pas ses études, parce qu'il ne fait rien au moment, il va avoir le droit à entrer à l'école. » Alors là, mon père a pris mes appareils, il l'a enfermé. On m'a forcé à travailler très dur pour l'école que j'ai détesté. Mais enfin, j'ai réussi quand on m'a foutu à la porte à 16 ans. Et là, je suis entré comme apprenti en 1936 chez un très grand photographe à Berlin, une femme photographe.
Quelle est la plus ancienne photographie de vous dont vous vous souvenez?
Oui, la première, je me rappelle très bien de la première photo que j'ai faite. J'ai acheté à 13 ans de mon argent de poche un appareil dans un genre de prise unique à Berlin qui était livré pour, je crois, ça coûtait 3 marques avec un film dedans et un genre de box brownie. Et je suis parti avec cet appareil dans le métro et j'ai fait, il y avait 8 prises de vue sur le film. Là, j'ai fait 7 dans le métro. Et je suis sorti du métro et j'ai fait une photo en lumière du jour de ce qu'on appelle le Funkturm, qui est un genre de mini tour à Eiffel, un peu comme un pur don par comparaison à la tour à Eiffel. Et sur la bobine, bien sûr, la seule photo qui est sortie, c'était la photo du Funkturm. Mais ça déjà, c'était drôle parce que j'ai beaucoup aimé la nuit, faire des photos de la nuit. Mais bien sûr, j'ai pas compris comment on doit faire ça. Alors, je me rappelle de cette première photo, de cette première bobine que j'ai faite.
Violeta Sanchez, d'origine espagnole, a interrompu par hasard et non sans nostalgie une carrière d'actrice. Elle est mannequin et travaille régulièrement avec Helmut Newton.
Que pensiez-vous de lui avant de le connaître?
Je ne sais pas. J'étais très intriguée par ses photos. Et puis, j'avais pas vraiment d'idée préconçue. Mais enfin, je l'imaginais comme quelqu'un... certainement plus difficile, en tout cas, alors que c'est quelqu'un de très bon enfant, de très drôle, qui a un énorme sens de l'humour, et que j'ai rencontré d'abord socialement. Alors, je me suis retrouvée à côté de lui à un dîner, on a passé un dîner très 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 drôle, et j'étais tout à fait étonnée. Puis ensuite j'ai travaillé avec lui, et je me suis rendu compte que... il exprime ses fantasmes avec une facilité et... un manque de je ne sais pas comment expliquer, d'ambiguïté tout à fait relaxant et inspirant pour le modèle. Comment est-ce que je me l'imaginais avant? Peut-être comme quelqu'un de plus sévère et de plus rébarbatif, peut-être. alors que c'est tout autre chose.
Est-ce que vous l'avez vu changer ?
C'est-à-dire que depuis qu'il est parti à Monte Carlo, il vit une autre vie, il n'est plus un Parisien, et il est devenu quelqu'un comme ça, très très relax, de très en pleine forme, qui vit différemment, qui vit un autre rythme, mais qui n'a pas vraiment changé, non. Il est effectivement beaucoup moins stressé parce qu'il a choisi un autre rythme de vie beaucoup plus agréable pour lui. Mais j'ai pas vu vraiment, artistiquement, je ne l'ai pas vu changer. Je veux dire, bien sûr, chacune de ces photos est différente et il y a une évolution permanente et aucune ne ressemble à l'autre, même si on les reconnaît chacune. Mais j'ai pas noté un grand changement. Il y a eu des grands moments, comme tout à coup cette exposition des grands nus. Mais je veux dire, c'était une surprise au niveau visuel, mais c'était pas une surprise au niveau de la démarche de l'artiste.
Ensuite, qu'avez-vous fait ?
Ensuite, j'étais apprenti chez cette formidable femme photographe qui s'appelait Eva, qui est morte dans un camp de concentration à Auschwitz et qui était une femme que j'ai beaucoup admirée. Elle était très belle. Moi, j'ai eu 16 ans et j'étais très impressionné. Elle était la patronne d'un grand studio à Berlin. Elle a fait surtout la mode, portrait, des acteurs. Et là, j'ai passé 2 ans en apprentissage et c'était vraiment 2 ans de rêve.
Qu'est-ce qu'on apprend quand on apprend la photo ?
À cette époque-là, c'était très différent qu'aujourd'hui. Alors, c'est que d'abord, les parents paient pour l'apprentissage. Ils ne paient pas une grande somme, mais ils versent quand même une somme au patron. Et comme ça, le patron est sur une certaine devoir, je ne sais pas comment dire, devoir que l'apprenti travaille, apprend le métier. Alors, d'abord, j'ai passé beaucoup de jours dans le labo en faisant le révélateur dans les grandes cuves. Parce que à cette époque-là, le révélateur était fait par des poudres chimiques différentes. Ce n'était pas tous arrivés dans une boîte, il faut le vraiment mélanger. Et j'ai appris la retouche sur négatif, j'ai appris la retouche sur papier, sur le tirage. J'ai fait tout. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est mille fois mieux qu'une école. C'était une formation totale.
Votre première photographie professionnelle, c'était quoi ?
La première pour laquelle on m'a donné d'argent. Je crois, je ne sais pas, c'était peut-être un portrait à Singapour. Mais ce que je me rappelle beaucoup mieux, c'est la première fois quand j'ai eu une couverture sur un magazine. C'était tout de suite après la guerre, je crois que c'était en 45 ou 46. C'était même avant, il y avait des films couleurs en Australie. Je me rappelle, c'est une photo noir et blanc sur la couverture d'un magazine qui s'appelait Australian Post, qui était coloré à la main par l'artiste de cette magazine. Et c'était comme tous les magazines, sur les kiosques de Melbourne. Et je me rappelle, c'est sorti un samedi matin, et je suis couru d'un kiosque à l'autre avec un tel excitement à voir ma première couverture que je n'étais pas cru possible, que je ne vais jamais arriver à ça. Alors ça, c'était quelque chose de, pour moi, très remarquable. Avoir dans la public une couverture de magazine qui était le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter ça, regarder ma photo avec mon nom dessus. Pour moi, c'était absolument un genre de rêve.
Alice Springs, née en Australie, est depuis 30 ans la compagne d'Helmut Newton. Elle a pris pour pseudonyme le nom d'une petite ville située au centre géographique de son pays. Elle expose régulièrement aux galeries Canon d'Amsterdam et de Genève, ainsi qu'à la Galerie de France à Paris. Un livre regroupant ses portraits vient d'être publié par les éditions du Regard.
Comment est Helmut Newton comme personne?
Ah, c'est un chou. C'est un vrai chou. Il est tellement facile vivre avec, toujours amusant, toujours différent. Les gens me disent, comment tu peux supporter ce monstre? Peut-être je suis bizarre, peut-être j'aime les monstres, mais je lui trouve toujours dans de bonne humeur. Jamais triste, jamais déprimé, qui aide beaucoup les femmes dans la vie. Et jeune dans l'esprit, dans son esprit, très jeune. Toujours, il pense sans arrêt des choses à faire. Il ne reste pas sur ses fesses en disant, moi, je suis très contente avec ce que j'ai fait, mais il pense toujours de l'avenir, ce qu'il va faire.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a changé depuis que vous le connaissez?
Non. Il n'a pas changé. Son travail a changé, heureusement. Mais c'était toujours bon. Il a toujours eu une signature. C'était toujours. Moi, j'ai toujours su quand c'était lui qui a fait une photo. Il était toujours fort. Pour moi.
Mais est-ce qu'il y a eu des grandes périodes de changement dans sa vie?
Quand il a quitté l'Australie, il a beaucoup changé. Parce qu'en Australie, ce n'était pas possible de faire ce qu'il a voulu faire.
C'est-à-dire?
Parce que tous les agents de publicité, pendant les réunions, c'était tout pareil. On a montré une photo de Avedon ou Penn ou quelqu'un d'autre, américain surtout, et en disant, voilà, Helmut, c'est ça notre campagne. Et c'était, c'était encadré comme un chef-d'œuvre. Vous savez, il a fallu qu'il soit exactement, presque exactement pareil que les Américains. Et quand de temps en temps, il a dit, bon, je vais faire quand même pousser moi-même, et ils ont dit, j'aime beaucoup, c'est une très belle photo, mais on peut pas passer parce qu'on n'a pas vu avant. C'est pas quelque chose quotidien qu'on connaît.
Est-ce qu'il y a des photographes qui ont compté pour vous?
Oui, il y a beaucoup qui sont comptés. D'abord, dans ma jeunesse, il y avait mon maîtresse, je ne sais pas comment on dit, Iva, qui pour moi était qui est dans l'histoire de la photographie allemande important, et j'ai reconnu bien de son art et ce qu'elle a fait. Et j'ai copié, comme tout jeune, ils copient leur maître, j'ai fait la même chose. Il y avait des gens à l'époque que j'ai beaucoup admirés, mais il y avait souvent des reporters aussi que j'ai admirés. Je me rappelle de Herbert Bayer, que je me rappelle. Il y avait un photographe, Heinz von Perkhammer, à Berlin. Plus tard, j'étais très impressionné, je suis toujours très impressionné, par les photos de Brassailles, spécialement les photos de nuit de Paris, toutes ces photos du milieu parisien. Pour moi, Brassens était une très grande influence. Mais il y a beaucoup de photographes que j'admire. Il y a Brandt, il y a Avedon et Penn. Je me rappelle d'un autre. Quand j'ai vécu à Singapour et j'ai eu 18 ans, c'était en 38. J'ai vu beaucoup de Esquire magazine, et dedans j'ai découvert les photos de George Orwell. Et ça, ces photos de stars hollywoodiens, ça m'a impressionné beaucoup. L'éclairage qui était très typique pour l'époque, mais aussi qui était très comme la manière dans laquelle il a éclairé les femmes étaient les hommes aussi étaient assez très très spéciales. Et j'ai fait la connaissance de George Orwell il y a 4 ou 5 ans à Los Angeles. On est devenus très grands amis. Et on m'a demandé, parce que son agent distribue des portfolios qui sont achetés par les collectionneurs. Et on m'a demandé à écrire un petit papier sur lui. Et j'ai écrit ce papier, l'admiration que j'ai eue pour lui et pour ses photos quand j'étais un jeune homme de 18 ans. Et comme ça, on est devenus très, très amis. Et ce qui est extraordinaire, que George, maintenant, a 75 ans. C'est un homme très, physiquement, très, très fort. Il est très, très drôle. Plein de joie de vivre. Et les photos que George prend aujourd'hui sont des photos extraordinaires parce qu'elles sont dans la même manière dans laquelle il a fait dans les années 30, mais ils sont modernes. Je me rappelle, il y avait quelques mois dans Life Magazine, il y avait des portraits de Brooke Shields faits par 6 différents grands photographes américains. Parmi eux, il y avait Avedon, George Orwell, je ne me rappelle plus des autres, mais la photo la plus sensuelle, la plus belle, était celle de George. Alors, c'est rare parce qu'il y a beaucoup de photographes, de très grands photographes, qui ou abandonnent à cet âge la photographie, ou travaillent toujours, mais dans le même style, mais c'est pas la même chose. C'est toujours le même style qu'ils ont eu quand ils étaient très célèbres quand ils étaient plus jeunes. Ils ont fait leur meilleur travail. Mais d'une manière ou l'autre, the edge is off. Ça veut dire, je ne sais pas comment je peux dire ça, ça veut dire le style est pareil, mais ça ne marche plus dans la même façon. Et ce qui est extraordinaire, que George, pour lui, ça marche dans la même manière. C'est si fort que c'était. Il a passé de très mauvaises années sans un sou. Il était forcé à photographier les gens dans la boîte de nuit pour gagner un peu d'argent pour sa famille. Et tout à coup, il y avait une renaissance pour lui. Les gens ont redécouvert l'époque et ses merveilleux portraits.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez pensé vous interrompre?
Non, jamais. Jamais. Pendant la guerre, j'ai toujours fait un peu de photos, mais pas vraiment. Mais j'ai toujours, même pendant la guerre, quand j'étais pas possible à faire des photos, j'ai pensé à la photographie tout le temps, parce qu'on peut faire des photos, même si on voit les photos. Où on voit des photos, si on est un vrai photographe, si on est passionné, c'est pas nécessaire d'avoir toujours un appareil. Moi, je me promène maintenant plus jamais avec un appareil dans ma poche. J'ai fait ça pour une certaine période. Mais j'ai décidé que c'est peut-être pas comme ça que je voudrais être. Je vois des photos, j'appelle ça des photos de mémoire. Je vois des choses extraordinaires dans la vie, dans les parcs de Paris, dans le Midi, n'importe où je suis. Et ce sont des choses que je... Quand j'ai besoin d'une référence, j'écris dans mon petit bouquin. Et autrement, c'est archivé dans une manière, dans la tête. Parce que je peux pas... Quand je vois une scène dans la rue... Que me frappe, qui est étonnant. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire une photo comme ça et ça va être une mauvaise photo de, je sais pas, d'un photographe de reportage, un bon reporter qui va le faire mieux. Moi, je peux pas, je suis pas très bien comme ça.
Quand il a quitté l'Australie, il est venu s'installer en Europe.
Il a passé une année à Londres et il n'aimait pas du tout. Il a travaillé pour le journal Vogue à Londres. Il n'aimait pas du tout. C'était la plus triste de sa vie. C'était une époque quand les femmes, c'était juste avant le swinging London. Et Vogue, les femmes de Vogue, Les bonnes femmes ont toujours porté les, comment dirais-je, les twin sets, c'est-à-dire une pullover avec un cardigan, toujours les perles, avec une vase de roses ou des fleurs, toujours les belles fleurs, bien arrangées. Et une femme, c'était pas possible pour elle se pencher sur une poteau ou s'asseoir dans la rue, quelque chose comme ça. Il était triste. Très coincé. Et avant, c'était le seul contrat qu'il a jamais fait dans sa vie. C'était pour une année. Et avant le contrat était terminé, il a décidé, il a annoncé qu'il va quitter Angleterre pour la France. Je dis, c'est pas possible, tu peux pas quitter maintenant parce que tu as un contrat, tu vas jamais travailler pour Condé Nast. Et c'est ça que vous voudrez faire. Et ça sera la termination de tout ça. Il dit, tant pis, je pars. Et il est parti. Et on a resté à Paris pour une année. Et puis, on a retourné en Australie parce que on n'avait pas gagné assez d'argent. Et on était très pauvres et très faim. On a eu faim. Je me rappelle très bien quand on a regardé les volailles dans les vitres et j'ai pas passé dans le bon côté. J'ai traversé la rue pour ne sentir pas les poulets qui grillent. Et il a dit, bon, il faut gagner la vie. On a quitté la France pour Australie pour 2 ans. Et puis, quand on a eu assez d'argent, on est quitté Australie encore. Et c'était là où il a démarré à Paris pour Vogue français. Il a commencé avec Vogue français et tout de suite marché.
C'était quand ça?
C'était 59 ou 60. 60.
Et vous n'étiez pas photographe à l'époque?
Non.
Comment choisit-il ces modèles?
Comment choisit-il ses modèles? Oh, un peu comme tous les photographes, c'est-à-dire que on lui envoie pas mal de jeunes filles qu'il rencontre comme ça, et puis s'il est séduit par ce qu'elle dégage, par l'image, par le physique, il décide de travailler avec elle.
Peut-on savoir que c'est perdu d'avance dans certains cas? Ou est-il capable de changer, d'être totalement imprévisible dans ses choix?
Non, je crois qu'il est totalement imprévisible dans ses choix. Bien sûr, il y a certaines personnes dont on peut dire tout de suite qu'elles vont lui plaire. Mais on se trompe aussi parfois. Mais très souvent, il est totalement déconcertant dans ses choix. Même s'il est relativement fidèle à un certain type de femme, il peut tout à coup être extrêmement flexible ou versatile.
Est-ce qu'il parle de ses choix et est-ce qu'il les explique parfois?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si on le lui demande, il l'exprime plutôt sous forme d'impression, c'est-à-dire il vous dira qu'il aime bien quelqu'un parce qu'elle dégage ci ou cela, mais ça n'est jamais... Ou parce qu'il a une partie du corps de cette personne qui l'inspire plus particulièrement, des jambes, un visage, quelque chose. Mais en général, il ne s'explique pas vraiment sur ses choix.
Que pense-t-il des hommes? Car c'est un univers de femmes.
Que pense-t-il des hommes?
Et les hommes ont toujours l'air de faire surtout de la figuration dans les photos.
Il en parle très peu, je dois dire. Vous avez raison, c'est un univers de femmes, et surtout dans un contexte de travail, les hommes interviennent extrêmement peu. Effectivement, à un niveau plutôt de figurant que d'acteur, et donc il en parle effectivement peu.
Mais est-ce qu'il dit qu'il considère les hommes comme des porte-manteaux ou c'est on le constate simplement?
Non, Non, c'est simplement que je crois qu'il préfère photographier les femmes que les hommes, mmh. et que dans certaines situations, il trouve la présence d'un homme intéressante ou justifiée ou indispensable, mmh. et qu'elle fait partie de la mise en scène et de l'image et l'atmosphère qu'il veut créer. Mais le personnage central, je pense, est toujours le personnage féminin.
Est-ce que vous pourriez décrire une photographie d'Helmut Newton ? À quoi la reconnaît-on ? À quoi vous la reconnaissez ?
D'abord, il y a une très forte simplicité pour moi dans ces photos. Je pense maintenant de ces portraits parce que il a commencé à faire les portraits pour quelques journaux et je les trouve absolument admirables parce qu'ils sont tellement fortes. Les miennes n'ont pas fort, sont complètement différents. Ils sont tellement forts, mais on ne sait pas, je ne sais pas la différence. C'est pas parce que je voudrais faire la même chose que lui, parce que c'est pas le cas. Mais quand même, je ne sais pas comment il obtenir cette chose qu'on reconnaît tout de suite de c'est lui qui a fait.
Qu'est-ce qui vous fait reconnaître, justement ?
Faire reconnaître, c'est-à-dire ?
C'est une photo de lui. Est-ce que vous disiez que vous pouviez reconnaître immédiatement une photo de lui?
C'est ça que j'ai pensé que j'ai répondu.
Mais est-ce qu'il y a des choses précises?
Oh là là. Je ne sais pas m'exprimer. Les choses précises. Toujours, c'est les femmes qui rend dans une certaine manière pas dure comme mais assez forte, assez très présente, mais c'est pas jamais le visage que vous remarquez ou ni une attitude. C'est pas quelqu'un qui a un grand sourire dans l'appareil qui séduit l'appareil. Elles sont assez loin, assez distantes.
Qu'est-ce qu'une bonne photographie ?
Ah, ça alors, j'aimerais bien savoir. Il n'y a aucun critère pour ça. C'est comme vous me demandez qu'est-ce que c'est une belle femme. Je ne peux pas décrire. Je peux donner des exemples, bien sûr. Ce qui est des photos qui sont restées dans ma mémoire. Il y a si vous me demandez ça, je peux penser à ça. Mais je ne peux pas les décrire.
Qu'ont-elles en commun?
Ce que qui est dans mon mémoire, des photos, des belles photos. Mais il y a la photo de Bill Brand qu'il a fait dans la maison haute bourgeoisie anglaise, avec les deux bonnes qui attendent à côté du buffet, la bonne qui prépare le bain. Pour moi, cette série de photos, quelque chose d'extraordinaire. Les photos de Penn, les photos de mode en noir et blanc de Penn, début années 50. Pour moi, c'est une révélation. Les premières photos de mode, le début de Harper's Bazaar de Avedon, c'est tout à fait extraordinaire. Le brassage, j'ai déjà parlé. Il y a certaines photos de l'Artigue. Moi je fais une petite collection, je ne suis pas très sérieux comme collectionneur, mais j'ai quelques photos que... De Salomon, Dr. Salomon. Alors ça... Il n'y a que toutes les photos que je connais de lui sont que de belles, extraordinaires photographies. Alors je vis avec un depuis, on m'a donné ça, un ami m'a offert cette photo, une photo très célèbre. J'ai toujours eu ça devant moi. Quand je suis assis à mon bureau, quand je travaille, je le vois toujours. C'est depuis des années, cette photo, je ne suis jamais fatigué par ça. C'est toujours belle, tous les jours.
À quoi pense-t-on lorsque l'on est photographié ?
En général, Helmut Newton évoque des images. Déjà d'emblée, il demande des choses relativement évocatrices. Donc, on peut se mettre en situation par rapport à ce qu'il demande. On pense pas à autre chose. Il évoque un imaginaire relativement précis et dans lequel on est complice. Et alors, ça peut varier totalement par rapport à la photo qu'on est en train de faire.
Comment commence-t-il une photo ?
Alors, en général. Ça dépend. C'est une série. J'ai fait surtout des photos de vêtements avec lui. J'ai fait des portraits aussi. Si c'est une série de vêtements, par exemple, il a parfois des idées précises quant à la mise en scène. Enfin, la plupart du temps, il a des idées précises quant à l'idée de la série. Et ensuite, on se met en situation par rapport aux vêtements, à l'environnement, et puis à ce que le vêtement évoque. Ce qu'il évoque pour lui, ce que le mannequin qu'il porte évoque pour lui. Je crois qu'il compte aussi beaucoup sur la personnalité des gens avec qui il travaille, donc il y a une marge de liberté au niveau de l'expression, qu'il motive lui, qu'il inspire, donc, pour utiliser ce mot. À ce moment-là, à partir du moment où on fait quelque chose qui l'intéresse, il vous pousse dans cette direction, ou bien il vous arrête si ça ne va pas.
Est-ce qu'il peut changer complètement d'avis en cours de route ?
Oui, tout à fait. Aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire qu'il peut commencer à faire quelque chose et puis tout à coup décider que ça ne va pas du tout. Et puis à ce moment-là, soit parce que, je prends mon cas, puisque moi je trouve que c'est une bonne idée, j'insiste un petit peu, et tout à coup on trouve le moment où ça fonctionne et ça va très bien, comme on peut aussi travailler sur quelque chose et puis tout à coup il décide que ça ne va pas du tout et qu'on doit passer à autre chose.
Quel souvenir, par exemple, avez-vous de ce genre d'incident ?
Le plus récent, il y a 15 jours, justement, je faisais une photo de chaussures avec lui. Il avait une idée de cadrage très précis sur un sein nu et une main qui tenait la chaussure sur ce sein nu. Et le cadrage était très serré entre la main, la chaussure, le sein. Et on n'arrivait pas du tout à trouver une position de main, de chaussure, qui soit adéquate à la fois pour représenter l'objet et esthétique pour Helmut. Et puis, mais je trouvais l'idée bonne, le talon pointé vers le sein comme un poignard, etc. Et au bout d'un moment, il s'est fatigué des contorsions du poignet et il a dit qu'on arrêtait tout. Et à ce moment-là, moi, j'ai insisté. Et puis, on a fait la photo comme ça et ça s'est très, très bien passé.
Qu'est-ce qu'une photo d'Helmut Newton ?
Ah, mais ça, alors, je ne peux pas. Ils sont toujours des femmes. Il y a des noirs et blancs, il y a des couleurs. Il y a certaines que j'aime. Moi, je fais peu de photos dans 12 mois qui me plaisent. Si je fais une dizaine qui sont bien, ce sera déjà une récolte extraordinaire.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez le sentiment que ça a beaucoup changé ?
Qu'est-ce qui a beaucoup changé ?
Dans votre façon de photographier.
Ah oui, je crois, moi je change tout le temps, j'espère. Ça c'est voulu, parce que je m'ennuie très vite. Alors il faut que ça change, il faut qu'il y ait... je ne peux pas rester qu'avec la mode. Je fais la mode pour 2-3 semaines. Fais des photos de mode ou de rédactionnel ou de la publicité. Alors, j'en ai marre et je voudrais faire quelque chose d'autre. Je fais des photos de nu quand j'ai travaillé sur le dernier livre et ce qui était aussi l'exposition. Je ne peux plus Après ça, je n'étais plus capable à faire un autre nu. Mais maintenant, je ne veux pas faire des nus. Je ne sais pas quand ça va revenir. Mais pour le moment, c'est terminé. Ça, je suis sûr.
Qu'est-ce que la photo de mode ?
La photo de mode, ben, pour la, il faut faire une distinction entre le rédactionnel et la publicité. Parce que la publicité, il y a quand même un restreint assez important. Parce qu'on a un devoir important à montrer bien ce que les clients vendent. Alors, pas la peine à parler de ça pour le moment. Vraiment, pour moi, une belle photo de mode dans, rédactionnelle, faite pour une magazine, c'est-à-dire où on a une liberté pour s'exprimer, c'est une photo d'une belle femme qui ne fait pas un mannequin, qui ne fait pas une photo de mode. Parce que toutes ces photos de mode, que je vous photographie habillée comme vous êtes habillée, ou je photographie ma femme, ou ma sœur, ou ma mère, c'est tous des photos de mode. Le moment où quelqu'un est habillé, c'est une photo de mode. Alors, ce que j'aime beaucoup, quand ça ne fait pas photo de mode, que ça fait une photo d'un personnage qui porte une mode qui donne la vie. C'est pour ça que je travaille presque jamais au studio, parce que pour moi, la vie se déroule pas, la vie d'une femme se déroule pas devant un papier, devant un fond papier blanc ou gris. La femme vit dehors ou dans un décor ou dans une maison, comme tout le monde. Alors pour moi, c'est très important qu'elle est entourée par ce que je pense elle doit représenter.
Comment les choisissez-vous ?
Les filles ou les... Les filles, bon... Toutes les filles avec lesquelles je travaille, ou 99%, sont des filles professionnelles, des mannequins professionnels. Alors avec la poste arrive tous les jours ce qu'on appelle composites. Ce sont des petites cartes postales qui sont envoyées par des agences de mannequins. Et ce que je ne montresse pas, je mets dans le corbeille à papier, et quand je vois quelqu'un qui m'intéresse, je mets à côté. Et peut-être tous les deux mois, mon agent arrange pour moi ce que dans le métier s'appelait un go-see. Ça veut dire viens voir quelqu'un. C'est ça que les mannequins doivent faire pour se présenter aux photographes. Et on appelle un nombre de filles de toutes les agences qui m'a plu et que je voudrais voir. Et en général, pas toujours, parce que c'est très difficile à trouver, pour moi, très très difficile à trouver des filles qui me plaisent. Mais quelquefois, j'ai trouvé des filles pendant les derniers 12 mois. J'ai trouvé 2-3 filles, 4 filles qui étaient formidables, avec lesquelles je travaille toujours, bien sûr. Mais elles sont toutes différentes. Il n'y a pas chaque fille est très différente de l'autre.
Est-ce qu'elles sont belles ?
Ben pour moi, elles sont belles, bien sûr. Mais il y a sûrement des gens qui ne trouvent pas belles ou qui trouvent autre fille mieux. Mais moi, j'ai mon goût, il faut que je suis ça que je veux faire. Alors, à une certaine époque, j'ai une certaine image d'une certaine femme. Pour moi, elle est la femme idéale. Et peut-être 6 mois après, je change d'avis. Alors, je trouve une autre fille ou 2 autres filles, si j'ai de la chance. Mais ça change beaucoup pour moi. Alors, mon idéal, il y a certaines choses qui sont importantes. C'est pas impossible à travailler avec une petite fille, parce que ça va pas. Parce que c'est très important pour l'appareil que si ça soit une nue ou une photo de mode, les proportions sont tellement importantes. Alors, une fille qui a moins de 1m75, 1m76, déjà, ça me tracasse. Ça vaut pas la peine à commencer à travailler avec.
Comment prépare-t-on une séance ?
Ah, ça c'est le plus grand travail. C'est-à-dire, moi je prends peu de photos, très peu de pellicules. Je prends, en général, une bobine de 24-36, ça fait 36 images. Ou si je travaille sur un appareil 6-6, je prends 2 bobines, ça fait 24 à peu près. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais 80% du temps, je ne prends pas beaucoup de photos et ça va assez rapidement. Les préparations sont beaucoup plus longues. D'abord, trouver les filles, penser à une idée, c'est ça qui est difficile, un point de départ. Où on commence. C'est ça la chose la plus difficile, la plus compliquée. Parce que je ne suis pas le genre de photographe qui sort avec toute une équipe et espère qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que, à mon avis, rien va se passer. C'est trop dangereux. On peut pas, ça coûte trop cher. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a besoin d'une très bonne équipe de maquilleurs, coiffeurs, rédactrices ou rédacteurs, stylistes. Ces gens sont très importants pour la réussite de mes photos. Tout ça est fait bien prévu en avance et je ne me sens pas à l'aise si je n'ai pas les gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. J'ai beaucoup de regard pour leur art et pour moi, ils sont très importants. Mais le point de départ à trouver, c'est pas même une idée, c'est pas ça, c'est difficile à expliquer. La lumière, on peut pas prévoir, ça peut être ensoleillé, ça peut être gris, ça peut être plate, ça on peut pas prévoir. Mais il faut qu'on ait quelque chose dans la tête, il faut moi que j'ai quelque chose dans la tête avant que je sors. Parce qu'autrement, je me connais très bien. Je me trouve dans la rue au bord de la mer avec cette personne qui coûte beaucoup d'argent et je ne veux pas faire une photo. Alors ça, la préparation est la chose la plus importante.
Est-ce que ça se matérialise? Est-ce que vous faites des croquis ou vous prenez des notes?
Jamais, parce que je suis pas... Des notes, je prends, oui. Je prends beaucoup de notes. Tout le temps, j'écris un petit peu des mots, des endroits que j'ai vus, certaines idées. Mais je n'ai pas le talent, je ne peux pas faire un croquis. Je ne suis pas capable, malheureusement.
Est-ce qu'une photo change en la faisant?
Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, bien sûr. Alors, je trouve mon point de départ, je sors, et c'est ça qui est excitant. Quand quelque chose se passe, on voit quelque chose de totalement différent et on laisse tomber l'idée, le point de départ et on fait quelque chose de totalement différent, c'est très excitant. Quand quelque chose se présente, la lumière est absolument différente à ce qu'on a espéré, on est forcé à improviser et ça c'est excitant. Il faut faire des décisions très vite. C'est très intéressant parce que spécialement quand on est en voyage, c'est impossible à reprendre, ça coûte trop cher. Imaginez si vous êtes parti avec cette personne et les photos ne sont pas bonnes. Alors c'est dramatique, on ne peut pas revenir à l'endroit, ce n'est pas possible. Alors moi j'utilise le Polaroid beaucoup. Pas seulement pour la technique, parce que ça c'est moins important. Pour moi, c'est comme une ça, c'est le croquis. Je le regarde et je dis, est-ce que ça, j'ai pris la bonne décision ou non? Et souvent, je me trompe. Je regarde, je dis, bon, ça, c'est la bonne décision, la mauvaise. Et 5 heures ou 6 heures après, quand je le regarde, je trouve, ah non, mais l'autre était la meilleure solution. Ouais, ça, c'est quand même, le Polaroid, c'est quelque chose de magique pour moi, quitte... très important et une grande décision. Quand il faut que je fasse une décision, c'est ça qui m'aide à faire une décision.
Est-ce qu'il fait une différence entre ces photographies pour la mode et ces photographies comme photographe?
Oui, je crois qu'il en fait une. Mais... Oui, bien sûr, dans la mesure où c'est un travail commandé. Mais à partir du moment où le vêtement l'inspire, où le mannequin, la situation l'inspire, ça reprend très très vite une tournure tout à fait dans la ligne de ce qu'il fait habituellement. Je veux dire, il ne se trahit absolument pas.
Qu'est-ce qu'il aime comme vêtement?
Je veux pas être banale, mais il aime les choses sexy. Mais sexy dans un sens qui peut être pas évident du tout, comme il peut l'être aussi très évident. Je veux dire, si vous connaissez ces photos, vous savez que ça peut... Je veux dire, Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de sexy dans le sens propre du terme. Et il peut aimer les femmes très sculpturales, comme les femmes qui expriment quelque chose de trouble uniquement dans le visage ou dans la ligne ou dans les attitudes ou le mouvement. Mais je crois que c'est ça qui importe avec un vêtement pour lui. Il aime les vêtements troublants.
Comment les met-il en scène ?
Comment les met-il en scène ? D'abord, il y a des choses qu'il voit comme ça et qu'il aime beaucoup, puis ensuite il les voit sur le mannequin, il est déçu. Et puis l'inverse peut se produire aussi, c'est-à-dire qu'il voit un vêtement et il dit « Oh là là, ça va être terrible », et puis on l'enfile et tout à coup, il trouve que c'est plutôt pas mal. Et à ce moment-là, il fonctionne à partir du vêtement, et une fois de plus, de la personne qui l'endosse, et des choses qu'il inspire plus particulièrement dans cette personne. C'est-à-dire que tout à coup, il peut décider de mettre en valeur un décolleté ou des jambes ou un imprimé par rapport à un décor. Il est très versatile, je veux dire. Il est constamment imaginatif. Je dirais. Ça peut évoquer plein de choses.
On allume nos cigarettes.
Il peut être aussi très inspiré par des lieux, je crois.
Comment choisit-il ces lieux, justement ?
Ça.
Bien qu'il ait tendance à photographier maintenant de plus en plus chez lui ou pas trop loin.
Oui. Ça dépend des moments. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a eu une période où il a fait beaucoup de photos en lieu clos, où le lieu était très important, il inspirait beaucoup en tant que lieu. Et puis j'ai fait aussi pas mal de photos avec lui comme ça, dans des jardins. C'est difficile de dire comment il choisit ses lieux, parce que tellement de choses différentes qu'il inspire.
Mais est-ce qu'il réagit au lieu, beaucoup ?
Au lieu, oui. À l'environnement, ce qui se passe dans le lieu. Par exemple, si on fait des photos dans un jardin, il peut tout à coup être arrêté par quelque chose qui se passe dans un endroit précis, une chose que font des gens, et tout à coup être inspiré par cette situation complètement extérieure à la photographie et au contexte dans lequel on était en train de travailler. Et à ce moment-là, avoir une idée précise de situation par rapport au travail qu'on était en train de faire et à ce qui vient de se passer à cet endroit-là, quelque chose qu'on vient de voir.
Par exemple ?
Ça, c'est pas une expérience personnelle, mais je me souviens d'une photo d'un de ses livres. Mais ça, je sais pas si on peut le dire à la radio. Tu te souviens pas de cette photo de la pissotière où tu avais tous ces messieurs de dos avec la tête qui les passe et le mannequin qui passe devant ? Tu vois, c'est...
Si, on peut le dire.
Mais attends, qu'est-ce que je peux... C'est pas la première, par exemple, la première série de photos que j'ai fait avec lui de mode. Ça se passait dans une maison donc de haute couture et... Il y a une tradition dans les maisons de haute couture, c'est que il y a ce qu'on appelle les mannequins de cabine qui sont en blouse blanche dans la journée et qui attendent d'être appelés au studio, par exemple, pour travailler. Et il a trouvé ça très, très intéressant et très évocateur. Et on a fait toutes les photos dans le salon de la maison de couture avec une série de mannequins qui restaient en blouse blanche, mais qui était en même temps très accessoirisé, c'est-à-dire qui portait des bijoux, des chapeaux, très maquillés, etc. Et un mannequin habillé. Personnage central en situation, et toutes ces femmes étaient très voluptueusement assises, allongées sur des canapés, des chaises, etc. Et ça donnait une ambiance totalement trouble entre deux choses. Enfin, on ne savait pas très bien, mais ça pouvait être à la fois un petit peu maison de rendez-vous ou salon de beauté. C'était très, très, très étrange. Et très ambigu comme atmosphère.
Mais comment intervient-il pendant la séance ? Une fois que les choses se sont un peu mises en place.
Il vous laisse faire. Il vous laisse évoluer dans le vêtement. En général, il suggère quelque chose, ce que le vêtement lui inspire, une position, une situation. Et puis ensuite, il vous laisse l'interpréter. Et à certains moments, quand on est dans la bonne direction, il vous le fait savoir. Et à ce moment-là, on travaille dans ce sens-là. Et puis à un moment donné, on s'arrête sur une pose plus particulière qu'il aime et on travaille là-dessus.
Quelle est la différence entre la bonne et la mauvaise décision ?
Ah, oui. Quand les résultats sont faits et on voit que c'est vraiment la merde et vraiment la décision du départ était mauvaise, il faut partir dans une direction totalement différente. Ça, c'est très traumatique. C'est affreux, cette réalisation. Alors, souvent, quand je reviens d'un voyage, je suis dans l'avion, le film est exposé à côté de moi, dans un petit sac, et je pense à ce que j'ai fait dans les jours qui sont passés, et je jure que j'ai pris la mauvaise décision. Mais bon, voilà, ça, c'est « that's the luck of the game », comme on dit.
Est-ce qu'il y a une surprise quand vous voyez les films arriver du laboratoire une fois tirés ?
Toujours. C'est toujours de la magie. Même après, je ne sais pas, 40 ans de photographie, c'est toujours un moment magique.
C'est-à-dire
avoir... D'abord, qu'est-ce que... La magie, il y a quelque chose sur un morceau de celluloid magique et... Vous savez, il y a tellement de... Je dis toujours aux jeunes photographes, quelquefois je fais des conférences ou je donne un cours ou quelque chose comme ça, et je dis, toutes les machines avec lesquelles vous travaillez, les flèches, les strobes, les appareils, tout qui est mécanique, est construit pour vous embêter. Jamais mettez votre confiance dans une machine. Parce qu'on ne sait jamais, moi j'ai vu des choses terribles se passer, j'ai vu des photographes revenir des voyages avec ou rien sur le film ou très peu parce que l'objectif automatique ne s'est pas fermé automatiquement, c'est cassé, ou bah, il y avait des rayons X qui se passaient aussi, il faut faire très attention. J'ai vu des choses terribles. J'ai vu une journée de photos dans un studio ruiné parce que la synchronisation du flash n'a pas marché.
Est-ce que c'est quelqu'un qui fait 150 photos pour en faire une ou 5?
Non, plutôt 5. Je veux dire, je ne compte pas en pellicule, je veux dire, je compte en pose, c'est-à-dire en idée par rapport à la photo définitive, plutôt 5. Mm. Je veux dire, il est très rapidement fixé sur ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Je veux dire, si on met une heure pour faire une photo, on ne change pas de situation 50 fois. Mm. Non, en général, c'est même plutôt 2 fois, grand maximum 3.
Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent le mettre en colère pendant une séance ?
Oui. Ah oui. Le manque de concentration l'irrite profondément, ce qui est totalement compréhensible. Le manque de l'incommunication avec le mannequin, ce qui est aussi l'impatiente beaucoup. Et il aime qu'on comprenne vite ce qu'il veut. Ce qu'il veut en général est clair et
précis. C'est formulé ?
Oui. C'est formulé très très clairement, il est très clair dans ses demandes, et il aime qu'on comprenne vite, parce qu'il aime travailler rapidement et précisément. Donc je crois qu'il n'aime pas avoir affaire à des gens flous, un peu mous, il lui faut de l'énergie et de la concentration, et le manque de ces deux choses-là l'irrite beaucoup, je crois.
Lorsque vous travaillez, est-ce que vous vous sentez solitaire ?
Oui, assez. June a toujours dit que peut être presque un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi qui se passe autour de moi. Quand je fais des photos, je ne vois rien, c'est vrai. J'ai je vois que ce que, qui est devant mon appareil, ou je vois à travers de l'appareil, c'est-à-dire au travers de viseur. Mais ce qui se, s'il y a des gens qui se disputent, c'est rarement que je me rends compte. Je suis vraiment totalement absorbé par, le, par ce que je fais.
Est-ce qu'il lui arrive de parler de l'image de perversité qu'il a?
Oui.
Qu'en dit-il?
Oui, avec beaucoup d'humour. Oh, à partir du moment où on le connaît et où on travaille avec lui et qu'on a un rapport comme ça, personnel, amical, etc., on, en général, on connaît cette image, on la comprend. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication à ce niveau-là. Mais tout à coup, par exemple, à un certain moment, il va faire une réflexion sur une pose ou un regard qui correspond exactement à quelque chose qui l'amuse. C'est très humoristique en général, très, très bon enfant.
Qu'est-ce que vous choisissez dans une photographie?
D'abord, quand je fais une photo de mode, la préparation, c'est-à-dire à choisir avec le rédacteur ou la rédactrice la mode, les accessoires, comment la femme doit être présentée, quel genre de femme ça doit être. Après, je pense à la lumière, à l'endroit, beaucoup de choses. Quand je fais les photos, pour moi, les pieds, les jambes, la position, les mains, chaque doigt compte beaucoup. Tous les détails sont très soignés. Parce que quand je fais ma bobine de 36 vues, je traite chaque photo, ce n'est pas mitraillé, c'est chaque photo est faite comme une photo. Quand je trie mes photos, si tout est pareil sur une bobine, ce n'est pas très amusant. Il y a 36 photos, il faut avoir. Enfin, je suis de la vieille école, on n'a pas mitraillé. Je ne mitraille non plus. J'utilise un moteur, mais plutôt c'est parce que je fais vue par vue. Jamais laisse mon doigt sur le bouton.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez changé de méthode de travail?
Je change ma méthode d'éclairage, plutôt. Pas souvent, mais peut-être tous les 2-3 ans, je trouve un autre genre de travail, tous les 3 ans, d'une autre façon éclairée. Quand je suis à l'intérieur, je ne parle pas d'extérieur, parce que là, je suis avec la lumière du jour, qui est quand même pour moi la plus belle lumière. Si ce soit une journée nuageuse ou où il brille le soleil, les deux, souvent tout est belle. Il y a certains éclairages qui sont pas bien, qui sont totalement plates, il n'y a pas de contraste. Mais ça, c'est rare que ça se passe.
Est-ce qu'il vous demandait votre avis? Est-ce que maintenant il vous demande votre avis sur ce qu'il fait?
Oh oui, toujours.
Est-ce que c'est quelqu'un d'influençable?
Non, je crois pas. Je crois pas. Mais c'est quelqu'un qui est très ouvert pour toutes les idées. Il écoute les gens. Il écoute les gens, il écoute moi, je sais, mais les autres gens aussi. Et il n'est pas fermé du tout. Mais quand même, il fait ce qu'il veut.
Mais ça compte que vous soyez photographe pour lui? Comment il a apprécié cette décision?
Il aimait beaucoup parce que j'ai pleuré plus, parce que j'étais passionnée pour mon métier. Alors il ne pleurait plus et comme ça on peut... c'est pas un boulot, il ne faut pas quitter chacun ou l'autre. On peut voyager ensemble.
Comment vit-il?
Très simplement. Il vit très, très simplement. Je ne sais pas comment il réussit tout ce qu'il fait comme son travail, sans secrétaire et sans personne, sauf un assistant.
Quels sont ses rapports avec son assistant?
Très bien. Très, très bien.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, les assistants du quoi, ils gagnent beaucoup d'expérience avec Helmut, parce que Helmut est là, il aide beaucoup les jeunes. Et alors, l'assistant est traité comme les mannequins ou comme les rédactrices.
À quoi pensez-vous pendant une séance de photographie?
Pendant une séance de photographie avec Helmut Newton, c'est toujours un jeu. Il y a toujours une grande complicité depuis le début à la fin. Donc, je pense, enfin, j'essaie de penser à ce à quoi il pense lui. C'est-à-dire, il s'établit une complicité dès le départ. Et. On peut créer un imaginaire, une situation imaginaire. Pour évoquer et justifier une pause ou un regard ou une situation.
Mais vous essayez de deviner à quoi il pense ou de l'inciter à penser vraiment ce qu'il pense, peut-être de façon encore imprécise? Est-ce que vous essayez de...
C'est un peu les deux. Mmh. C'est un peu les deux. Il y a une rencontre.
Mmh. Et comment ça se passe avec les assistants et tous les gens qui tournent autour, maquilleurs, éclairagistes et tout ça?
Très bien, dans la mesure où ces gens-là sont très professionnels, précis, efficaces, et où ils lui fournissent ce qu'il demande. Et il n'est pas d'une exigence extraordinaire, je veux dire, c'est quelqu'un qui veut des choses en général claires, nettes, simples, et qui est tout à fait charmant si on les lui fournit rapidement et professionnellement.
Est-il coléreux?
Ça peut lui arriver, mais...
En quelle occasion?
Oh, rarement, et en général, si justement on se montre pas assez professionnel, ou pas efficace, ou pas concentré, et qu'on commence à perdre du temps, et que la fatigue se fait sentir pour tout le monde, et que tout à coup, Helmut en a assez, il le dit, mais je veux dire, il n'est pas plus coléreux qu'un autre, enfin, oui, il peut lui arriver d'être coléreux, un petit peu.
Parle-t-il de lui?
Non. Très peu. Très très peu. C'est quelqu'un de très secret, et puis qui vous livre comme ça, par bribes, des indications, des faits. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui se livre, qui parle de lui, non.
Pourquoi? Dit-il pourquoi il n'en parle jamais? Il n'en parle pas non plus?
Non, il n'en parle pas non plus. Non, mais je crois que c'est... Ça fait partie de son essence. C'est un personnage très mystérieux, vraiment.
Est-ce qu'il souffre d'être considéré souvent comme un photographe de mode? Est-ce qu'il se considère comme autre chose?
Oh non, 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 non. Mais il a un peu marre de la mode. Mais non, 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 il a toujours voulu être photographe de la mode. Et il est toujours photographe de la mode.
Qu'est-ce qui l'intéresse dans la mode?
Ah, c'est ça, c'est les femmes. C'est les femmes qui portent la mode. C'est pas la mode comme fashion, comme le dernier cri. Il déteste le dernier cri. Il aime un certain style. Et quand il peut, il influence les rédactrices pour pousser dans cette sans direction, plutôt que les gens, par exemple, parce qu'il y avait une période que tout le monde a porté les chaussures de ballet très plats et les chaussures plats. Oh, alors, c'était une crise pour lui, pousser une énorme crise, parce qu'il déteste les chaussures plats. Je ne porte jamais les talons, mais il déteste les chaussures plats.
Que savez-vous de lui?
Très peu de choses. Très, très peu de choses.
De moins en moins ou de plus en plus?
Non, de plus en plus. Petit à petit. Mais très peu de choses sur son passé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a eu des vies très différentes, qui a rencontré énormément de gens. Je crois qu'il a eu une vie vraiment passionnante. Et qui la livre par anecdote, quand tout à coup, effectivement, en séance de travail, une situation le fait penser à une situation antérieure, et tout à coup, il va vous raconter quand il a photographié telle ou telle actrice, et que ça s'est passé comme ci et comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir un petit peu des choses de sa vie.
Mais autrement, je travaille très systématiquement.
C'est-à-dire ?
Une fois toute la préparation est faite, je suis avec mon modèle dehors, je trouve mon fond, je place le personnage dans ce décor que j'ai choisi, qui est quand même, je choisis mon objectif. Mais ça, c'est facile, parce qu'en général, je travaille toujours avec un 50, quelquefois avec un 85. Bien sûr, j'amène deux autres objectifs, mais je ne les utilise jamais. C'est très amusant à revenir à la maison et voir tout le matériel qu'on amène. Moi, j'amène pas beaucoup vraiment par rapport aux autres photographes, mais j'amène plus que j'utilise. Et je fais le tri, je dis, c'est drôle, toujours j'utilise que ça et ça. Alors, et c'est toujours le même objectif. Alors, je choisis mon objectif, qui est en général de 50, et je place cet personnage là où je trouve ça doit être bien. Je regarde là, moi je fais tourner la fille pour voir qu'est-ce qui se passe avec la mode, parce que c'est quand même important, la ligne et tout ça. Moi je parle maintenant du métier de photographe de mode. Quand on fait une nue, c'est un peu différent. Paysage, j'aimerais bien faire, j'ai jamais fait dans ma vie. Je crois que ça doit être très très difficile à faire paysage.
Est-ce que le fait que sa femme soit photographe le trouble ?
Oh non, je ne crois pas. Enfin, certainement, mais d'une manière positive et très ludique. Quelque part, il y a une stimulation, un jeu, une collaboration. Je veux dire, la vie d'Alice Spring est important, très important, de même que le sien est très important pour elle. Et il y a vraiment une grande, grande, grande complicité entre les deux. Et je pense que s'il y a trouble, il est en tout cas extrêmement positif et très, très stimulant.
Que pense-t-il et quel rapport a-t-il avec les créateurs de mode ?
Un rapport, je crois, d'homme plus que de photographe. C'est-à-dire qu'il aime certains vêtements ou il n'aime pas certains vêtements par rapport à ce qu'une femme dégage quand elle les porte. Il a bien entendu davantage d'admiration pour certains créateurs que pour d'autres. Mais je crois qu'a priori, il n'a pas une passion ou une curiosité excessive pour les créateurs en général. Je crois que ce qui l'intéresse avant tout, c'est son métier, son art. Et si le véhicule est le travail d'un créateur... à ce moment-là, il s'y intéresse, mais je crois que...
Mais il n'a pas de rapport avec eux, de rapport direct ou d'amitié.
Si, je pense que si, certainement, bien sûr, avec certains d'entre eux. Oui, absolument.
Est-ce qu'il en parle parfois ?
Non, il est tout aussi secret vis-à-vis de ces éléments-là de sa vie que des autres.
Est-ce qu'il parle de ses amis ?
Parfois. Si ce sont des gens qu'on ne connaît pas d'une manière anecdotique, comme ça, par hasard, tout à coup, une situation va en évoquer une autre. Ou alors, si ce sont des amis communs, effectivement, on va échanger nos impressions récentes ou bien les nouvelles.
Est-ce qu'il a plus le sentiment d'être un photographe de mode qu'un photographe, entre guillemets, artiste ?
Non, je ne crois pas qu'il ait le sentiment d'être un photographe de mode. Je crois que vraiment, vraiment, c'est un photographe, mettons, entre guillemets, artiste, bien sûr.
Mais est-ce qu'il souffre d'être, au moins pour des raisons sociales et économiques, dans la première catégorie ?
Non, je ne pense pas. Absolument pas. Absolument pas. C'est un véhicule qui l'intéresse et qui l'utilise et qui ne le gêne absolument pas. Parce que je crois qu'il est à un niveau de sa carrière où il peut se permettre absolument, pratiquement n'importe quel choix. Donc, je veux dire, rien n'est vraiment une obligation dans ce qu'il fait.
J'ai fait des fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Mes photographies de fleurs sont très mauvaises, mais je les aime beaucoup.
Qu'ont-elles de mauvais ?
Bah, ils sont pas bonnes par comparaison à autres photographes qui sont photographiés beaucoup mieux que moi. Mais j'aime beaucoup les photographier quand même.
Est-ce qu'en le voyant travailler, vous avez observé des moments où il semblait avoir des doutes sur ce qu'il faisait Est-ce qu'il a des passages à vide ou est-ce que c'est quelqu'un d'assez égal ?
Non, c'est quelqu'un de très égal. Mais il y a forcément des passages à vide. Parce qu'il y a toujours un moment pendant une séance photo, pas systématiquement, aucune séance ne se ressemble, mais où tout à coup, quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un vêtement qui n'inspire pas, ou une situation qui n'inspire pas, et on met très longtemps à démarrer, ou bien il n'est carrément pas satisfait de la photo qu'on finit par faire. Et puis, ça peut aussi être un moment très court, où tout à coup, ça ne fonctionne pas, alors on s'arrête, on passe à autre chose, et puis on reprend, et ça marche.
Mais est-ce quelqu'un d'inquiet ?
Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui exprime son inquiétude d'une manière comment dire ? Non, ce n'est pas quelqu'un qui semble inquiet. Je pense qu'il est inquiet comme nous le sommes tous, mais dans son travail, il n'exprime pas du tout l'inquiétude ni l'insécurité. On a toujours la très ferme impression qu'il est absolument certain de ce qu'il est en train de faire. Même si tout à coup, il s'arrête et il dit « Ah non, ça va pas du tout, j'aime pas ça, etc. » C'est aussi une certitude à ce moment-là, je veux dire.
Mais est-ce qu'on sent ça pendant la séance ? On sent que c'est en train de tourner dans le vague ?
Ça ne tourne jamais très longtemps dans le vague avec lui. Je veux dire, on sent quand ça ne va pas, mais ça s'arrête très très vite parce que... Parce que, justement, comme il est assez certain de ce qui se passe, quand ça ne va pas, ça s'arrête aussi très vite.
Et pourquoi vous photographiez des personnes et pas des objets ?
Je crois pas, quelquefois j'ai photographié des objets, mais c'est très très rare, presque jamais. Parce que j'aime une femme devant mon appareil, même si je vois très peu d'elle. Je trouve que c'est un élément vivant que j'ai besoin. C'est une sensualité. Et la mode est une chose très sensuelle. Comme je fais ça, même les nus. Les nus, c'est pareil que la mode. C'est très près de la mode. Parce qu'il y a une femme qui bouge dans une certaine façon. Si elle est habillée ou pas habillée, c'est toujours, il y a la ligne qui compte beaucoup.
Comment expliquez-vous le fait que vous soyez une privilégiée ?
Parce que je le connais socialement en dehors, je me considère pas comme une privilégiée, mais disons que n'étant pas...
Mais il a une relation privilégiée avec vous, quand même.
Oui, parce que nous nous sommes rencontrés socialement auparavant, parce que nous avons fait des photos ensemble qui n'avaient rien à voir avec la mode avant de travailler dans la mode, des portraits, et que donc, quand nous travaillons ensemble pour la mode, c'est un autre rapport, je veux dire. Nous nous connaissons. Je suis quelqu'un qui l'a photographié en tant que personne avant de me photographier en tant que mannequin. Donc,
mais est-ce qu'il change dans ces périodes, dans les rapports qu'il a avec vous, selon le type de photo qu'il fait, un portrait ou une photo de mode plus classique ?
Oui, parce que il change d'une manière superficielle, c'est-à-dire que à partir du moment où le contexte est un contexte de travail où nous sommes environnés par des professionnels et qu'il y a une demande précise, forcément notre rapport change puisque nous sommes tous les deux là pour accomplir un travail précis et dévouer notre énergie à un produit, effectivement, notre rapport change par rapport au moment où il est en train de faire un portrait de moi, par exemple.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir affaire à un vêtement où vraiment ça ne pouvait pas aller, où vous vous sentiez trop mal à l'aise pour...
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui se passe dans ces
cas-là?
Eh
bien, on change. On ne fait pas ce vêtement-là.
Mais est-ce que vous les voyez venir, ceux-là, ou que vous les ayez portés pour réaliser qu'ils sont vraiment inhabitables?
Ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, c'est que parfois, on a l'impression qu'un vêtement ne va pas aller du tout, et puis on l'enfile et on s'est trompé. Mmh. Et puis parfois, c'est l'inverse. Mais oui, non, parfois, c'est évident qu'un vêtement ne va pas aller. Enfin, en général, les gens qui organisent ces séances ont une idée précise de la question, connaissent le mannequin et savent à peu près ce qu'ils font. Donc, il y a tout de même rarissime qu'on se retrouve avec un vêtement qui ne va pas du tout.
Est-ce que vous pouvez en décrire un qui vous semble vraiment être le prototype même de ce qui n'ira jamais, pour vous tout au moins?
Oui, les choses trop fluides. Les vêtements trop souples, trop indéfinis ne me vont pas du tout. J'ai besoin de...
De contraintes?
Non, j'ai besoin de choses structurées. C'est ce que je porte le mieux. C'est ce que je préfère.
Est-ce que votre goût a changé dans ce domaine?
Basiquement, non. Il s'est modulé, il s'est sophistiqué au contact de, comme ça, d'un univers plus riche en idées, en matière, en beauté, dans le vêtement. Mais non, profondément, je crois qu'il n'a pas vraiment beaucoup changé.
Est-ce que vous vous mettez en colère?
Oh non. Oh, c'est très très rare. J'ai beaucoup de patience. Parce que je travaille uniquement avec les gens que j'aime beaucoup. Je ne travaille jamais avec quelqu'un que je n'aime pas. Alors il n'y a jamais de colère. C'est très très rare.
Est-ce que c'est restrictif, la photographie de mode?
Oui. Oui. Malheureusement. C'est pour ça que c'est très difficile. Et je trouve que maintenant, on est arrivé peut-être au niveau le plus bas qu'il n'y a jamais dans la photographie de mode.
C'est-à-dire?
Je ne sais pas, parce que il y a beaucoup de magazines partout dans le monde sont devenus très commerciaux. Les restreintes sont grandes. Heureusement, moi, je travaille pour très peu de magazines différents qui me laissent faire ce que je veux. Alors, à mon âge, maintenant, je suis arrivé à un point où je suis très heureux avec la relation que j'ai avec les magazines pour lesquels je travaille. Mais la photo, bon, quand je regarde une magazine de mode, je trouve qu'il y a une telle baisse d'amusement, d'aventure, il y a plus des gens ne font plus des expériences. Ils choisissent les chemins les plus sûrs. Ils ne prennent pas des risques. C'est ça qui est dommage. Moi, j'aime beaucoup prendre des risques. Alors, si ça ne marche pas, bon, bah, tant pis. Au moins, j'ai essayé.
Comment êtes-vous devenu mannequin?
Par hasard, parce que... Tout d'abord parce que j'ai rencontré des photographes tout à fait hors contexte qui m'ont demandé de travailler pour eux ponctuellement, alors qu'à ce moment-là, j'étais comédienne et que je pense encore l'être, enfin du moins je l'espère.
Vous l'avez été récemment.
Oui. Et Et que donc, comme il s'agissait de personnages sympathiques et que ce n'était pas des travaux contraignants, ça n'était pas des travaux contraignants, j'ai accepté. Et puis le moment le plus décisif a été celui où Monsieur Yves Saint-Laurent m'a demandé de travailler pour lui, pour une saison de haute couture, et tout en sachant que ça n'était pas du tout mon métier. Et qu'on m'a abordé donc d'une manière extrêmement civilisée et que j'étais très très curieuse de connaître cet univers comme ça un petit peu en voie d'extinction et qui fonctionne d'une manière totalement presque désuète, en tout cas totalement hors temps. Et à ce moment-là, ça a déclenché beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où on travaille pour lui, beaucoup de personnes dans la mode s'intéressent à vous et commencent à vous proposer du travail, et une chose enchaîne l'autre, et puis voilà.
Savez-vous pourquoi Yves Saint-Laurent avait envie que vous travailliez pour lui ?
Non, c'est très difficile. Enfin, je le sais sensitivement, mais j'aurais beaucoup de mal à le définir. Je veux dire, les femmes avec qui il aime travailler sont extrêmement, extrêmement diverses. C'est très, très difficile à dire. Je crois que ce qui compte avant tout, c'est qu'elles aient une personnalité propre, enfin quelque chose de très, très défini. Et ça l'inspire beaucoup. Je ne sais pas quelqu'un qui peut aimer n'importe quel mannequin à partir du moment où elle a des mensurations adéquates et un port adéquat. Il faut vraiment qu'il soit inspiré par quelque chose d'autre que cette femme dégage.
Est-ce que vous avez des tics ?
Ça veut dire quoi, tics ?
Des manies.
C'est-à-dire moi, dans ma manière, oui, je parle à moi-même. Quand je... devant tout le monde, je sais pas, moi ça va pas, ou ça c'est la merde, ou ah ça c'est très bien, alors je parle beaucoup, mais je parle à personne qu'à moi.
Mais est-ce qu'il y a des manies dans votre façon de photographier?
Je sais pas, peut-être.
Est-ce qu'il y a des moments où vous faites de Newton?
Mais qu'est-ce que c'est de Newton? Non, mais on me dit toujours, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes photographes ou amateurs? Et je dis toujours, le meilleur conseil, c'est ce qui est écrit sur les papiers qui sont dans les boîtes de film, c'est-à-dire laissez tomber le soleil derrière votre épaule gauche, un peu à côté, et exposez à, quand c'est un film 64 à hasard, quand il y a plein soleil, vous exposez à 250e à 8. Alors ça marche toujours. Alors il ne faut pas se compliquer la vie trop. Mais oui, j'ai certaines choses, bien sûr, c'est les mains, les doigts, les mains, les pieds, la position des jambes qui me tracassent, toute la ligne d'un jupe. Si ça pas parfait, je deviens très impatient. Alors ça, il y a certaines choses que je tiens que ça soit comme ça.
C'est-à-dire?
Ben, je sais pas, ça dépend. Je ne sais pas, ça dépend sur le modèle, sur ce qui est devant mon appareil. Non, mais j'ai des idées très définitives, quelquefois peut-être un peu trop définitives, mais quand même, je laisse tomber et je crois que j'ose prendre des risques et de dire, ouais, n'importe, on va faire comme ça, c'est peut-être pas bien, mais ça, si ça marche, ça peut être formidable. Est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais pas.
Est-ce que vous prenez de plus en plus de risques?
Non, ce n'est pas souvent qu'on est dans une position où les risques se présentent. Quand il y a quelque chose, ou quelque chose qui se présente, et on se demande, est-ce que ça c'est un risque? Ou... est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait ou rarement fait? Alors là, il faut le prendre, bien sûr. Mais malheureusement, c'est pas souvent que ça se présente. Malheureusement, c'est rare.
photographe et son modèle, Helmut Newton, par Gérard-Julien Salvi, avec le concours de Violetta Sanchez, d'Alice Springs et la voix de Frédéric Cantrel. Mixage Jean-Louis Boissonnade. Réalisation André Mathieu.
Cette émission a été diffusée la première fois le 9 décembre 1983 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.